Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire du tueur en série Thierry Poulain et de l'autre tueur en série Jean-Thierry Mathurin, deux tueurs en série français des années 80. Et cette histoire, j'ai choisi de la débriefer avec vous, Julien Cernobori. Vous êtes lancé il y a 3 ans à peu près dans une démarche assez incroyable, une série de podcasts autour de l'affaire Poulain, j'insiste sur le mot « autour », qui comprend donc actuellement une centaine d'épisodes.
Oui, une centaine, ouais.
Vous arrêterez un jour ?
Je pense pas, non. Je pense que j'ai de la matière pour continuer jusqu'à ma mort.
Et ces podcasts, on les retrouve évidemment sur toutes les plateformes sous le nom Cerno Lanti Enquête. Et si vous voulez bien, on va écouter le tout début du tout premier épisode et vous nous raconterez votre démarche après.
Une anti-enquête, premier épisode.
Notre société aime les corps jeunes.
Le mal existe.
Alors je vous explique.
Oui.
Les anciens occupants de mon appartement m'ont raconté qu'un serial killer avait habité dans l'immeuble.
Oh là là.
C'est l'affaire Thierry Poulain, vous vous souvenez de cette affaire ?
Thierry Poulain, non. Mais ça me dit quelque chose.
Ils étaient deux. Oui, ils étaient deux. Thierry Poulain.
Jean-Thierry Mathurin.
Il y a eu à une époque toute une série de meurtres.
De crimes presque de masse.
Le tueur de vieilles dames a alimenté une véritable psychose.
Entre eux, le docteur Petiot et Landru.
Je me lance dans une enquête.
Allô ?
Je rentre chez les gens, je vais voir des gens dans la rue.
Il était fragile. Il était perdu.
Je travaille sur un fait divers qui a eu lieu dans le quartier il y a 30 ans.
Oui ?
Des vieilles dames qui ont été assassinées.
Ah merde.
Non, je connais pas du tout cette dame. J'ai jamais entendu parler d'ailleurs.
Si vous ressentez le besoin de comprendre, il faut continuer votre chemin.
On verra bien où cette histoire me mène.
C'est ça donc le tout début de cette histoire. C'est-à-dire que vous vous apercevez que dans l'appartement que vous louez, dans l'immeuble, Jean-Thierry Mathurin a habité.
Oui, c'est-à-dire que quand on m'a remis les clés de mon appartement, les anciens occupants de l'appartement donc m'ont dit qu'un tueur en série avait vécu dans l'immeuble.
Mais pas chez vous ?
Pas chez moi.
Ouais.
Et ils savaient pas qui c'était. Et j'ai mis à peu près 9 ans. J'ai mené une enquête, c'est pour vous dire à quel point je vais vite. J'ai mené une enquête et un jour, en réunion de copropriété, ma voisine du 5e, une vieille dame, m'a dit « Mais je sais qui était ce tueur en série, c'était Jean-Thierry Mathurin, l'amant et
complice
de Thierry Poulain. »
À ce moment-là, vous vous savez qui ils sont, tous les deux ?
Oui, ce nom m'a tout de suite parlé. Parce que c'est une histoire que j'avais remarquée, en fait, qui m'avait marqué quand j'étais petit. Et je me souviens très bien de l'arrestation de Thierry Poulain, de son physique, de son beau visage avec ses cheveux blonds platine.
Ouais.
Voilà, ça m'avait marqué. Donc, effectivement, Jean-Thierry Mathurin, je voyais qui c'était.
Donc, ça fait digne tout de suite.
Oui.
À partir de là, votre démarche, c'est d'aller voir s'il y a une mémoire, c'est ça, dans le quartier de ce qui s'est passé tout autour de chez vous.
Alors, j'ai commencé par aller voir mes voisins dans mon immeuble pour savoir s'ils avaient le souvenir de ce Jean-Thierry Mathurin. Les gens avaient un vague souvenir. Et ensuite, je me suis dit, tiens, un jour, j'ai pris mon vélo. Je me suis dit, je vais aller voir le premier lieu de crime. Donc, au 43 rue Le Pic. C'est une dame qui n'est pas morte, mais elle est morte quelques temps après des suites de ses blessures. Et je suis parti comme ça et je me suis dit, bah, tiens, en fait, je vais voir s'il reste des traces. Du meurtre, est-ce que les gens s'en souviennent ? Est-ce que les gens se souviennent de la victime ? Qu'est-ce qui se passe dans ces lieux de crime 35 ans après les faits ? Est-ce qu'on y pense toujours, quoi ?
Et les gens ont la mémoire, majoritairement, ou pas ? Parce qu'à Paris, les gens déménagent tout le temps. Mmh. Enfin, beaucoup de gens déménagent. Donc c'est pas sûr qu'ils ont la mémoire d'un truc qui s'est passé autour de chez eux.
Non, il y a quand même quelques personnes qui restent souvent dans les immeubles, qui sont là depuis très longtemps. Depuis les années 80. C'est vieux, mais c'est pas si vieux. Et je retrouve toujours, enfin quasiment toujours, des gens qui ont connu les victimes. Moi, j'arrive sans préparation, micro ouvert. Donc, je sais pas du tout ce que je vais trouver.
Vous connaissez le nom de la victime, c'est tout, quoi.
Oui, c'est tout. Je sais à peu près ce qui s'est passé. Et si je retrouve des renseignements sur les victimes, tant mieux. Si j'en retrouve pas, tant pis. Parce que pour moi, ça raconte aussi quelque chose. Si on les a oubliés, si on a oublié l'affaire, c'est pour moi déjà quelque chose qui vaut la peine d'être mentionné.
Donc dans ce cas-là, c'est vous qui allez leur raconter ?
Oui, oui, souvent, oui.
Et alors, ils font quoi ? Des bandes cabris ?
Alors, ça les inquiète souvent un peu. Souvent, ils ont un vague souvenir, en fait. Ils se souviennent vaguement de cette histoire.
Ils ont vu fait entrer l'accusé, peut-être.
Ils ont vu fait entrer l'accusé, comme moi, d'ailleurs. ils ont vu fait entrer l'accusé, ils se souviennent un petit peu de l'affaire, mais bon, voilà, ils sont pas forcément au courant que ça a eu lieu dans leur immeuble, et je le leur apprends, quoi.
Et dans cette démarche, est-ce que vous êtes témoin d'un traumatisme? Puisqu'on voit qu'à l'époque, c'est un vrai traumatisme, qu'on comprend parfaitement. Lorsqu'il y a jusqu'à 2 morts dans la même journée, lorsqu'il y en a plusieurs jours de suite, forcément, ça amène toutes les vieilles dames du quartier à angoisser. Est-ce que c'est la trace de ça que vous retrouvez?
Je retrouve la trace de ça parfois parce que il m'arrive dans certains immeubles d'arriver donc micro ouvert et qu'on me désigne les personnes qui habitaient là à l'époque. Et quand ces personnes me voient avec mon micro, souvent elles ont une réaction de colère à mon égard. Souvent je me fais virer. Et je me dis que cette colère, c'est le résultat de la peur de l'époque et de tout ce qui a été contenu en fait de ce drame terrible qui rejaillit comme ça sous forme de colère et ça me retombe dessus.
Mais il y a le cas particulier donc des voisins qui se souviennent des victimes.
Oui.
Ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'ils essayent de les faire revivre quand ils vous parlent?
Oui, alors souvent, ils ont alors le premier lieu de crime que j'ai visité, je suis allé sonner au deuxième étage, c'est un monsieur d'origine turque qui m'a reçu. Il avait, quand je lui ai dit le nom de cette femme, c'est remonté à sa mémoire, et il a eu des mots très beaux, en fait. C'était pour lui comme sa mère. Il avait été séparé de sa mère en quittant la Turquie, et il a emménagé dans cet immeuble à Paris dans les années 80. Et cette femme, il l'aimait beaucoup. Il a été très peiné par ce qui lui est arrivé, par cette agression terrible dont elle a été victime. Et je me souviens qu'il m'en parlait avec des mots très beaux. Il me disait que c'était pour lui un ange. Voilà, ça fait remonter un peu des souvenirs, mais souvent les mots sont très tendres à l'égard de ses grands-mères.
Ouais. Est-ce qu'il y a des fois où vous allez toquer à la porte des gens qui occupent l'appartement des victimes, des mortes?
Alors, je vous avoue que ça m'est arrivé une fois. J'ai pu pénétrer dans l'appartement de Johanna Secaresco, qui est la 4e victime, si mes souvenirs sont bons. Et les gens qui occupaient l'appartement ne savaient pas que le crime avait eu lieu chez eux. Ils pensaient que le crime avait eu lieu dans l'entrée de l'immeuble.
Du coup, ça leur fait peur.
Alors, j'ai pas osé leur dire, parce que je voulais pas les effrayer. Mais moi, j'étais dans un état d'émotion très fort, parce que j'essayais de voir, en même temps qu'ils me parlaient, qu'ils me faisaient visiter, j'essayais de visualiser la scène de crime, ce que j'avais pu lire là-dessus.
Parce que, par exemple, vous avez le dossier pénal de Thierry Paulin.
J'ai alors le commissaire en charge de l'époque, en charge de l'affaire à l'époque, m'a donné accès effectivement au dossier d'instruction.
Oui. Donc vous avez les photos de la scène de crime, par exemple?
Et ce crime-là, celui de Johanna Secaresco, par exemple, j'ai les photos.
Donc vous savez exactement où était le corps?
Oui.
Donc vous le voyez quand vous rentrez, vous?
Oui, absolument.
Et vous le dites aux gens?
Non, je le dis pas.
Elle était couchée, là, comme ça, avec un bras comme ça?
Non, j'ai pas voulu leur dire, j'ai pas voulu les effrayer. Après mon départ, ils l'ont appris par la voisine d'en face, ils ont appris que ça avait eu lieu chez eux. Et j'avoue que depuis, ils ont déménagé.
Ah ouais?
Ouais. Oui, c'est pas évident de vivre dans un endroit.
Ça, c'est une dimension un peu annexe de votre démarche, c'est-à-dire que vous pouvez faire peur aussi.
Oui, c'est pas mon but. Mais oui, je peux faire peur, oui, je peux raviver cette mémoire de ces faits terribles. C'est un des plus gros tueurs. Enfin, ça, vous pouvez peut-être répondre à la question.
Ah oui, c'est même le plus grand tueur en série française. Ouais. En termes de victimes, même si on n'est plus capable de les compter, puisqu'à un moment donné, l'enquête s'est arrêtée par la mort de Thierry Paulin. Donc, au procès, on aurait donné un quantum de peine. On aurait dit, il en a tué 18, 21, 24, 36, etc. Il n'y a pas eu de procès, donc il n'y a pas de vérité judiciaire. Ouais. Sur le nombre de victimes. J'ai constaté, moi, dans ma carrière, quelque chose qui me froisse toujours un peu, c'est que les gens ont une fascination, une passion pour les tueurs en série. Je dis pas tous, mais il y a des gens qui ont un rapport assez malsain aux tueurs en série. Est-ce que vous avez constaté ça, vous aussi?
Oui, j'ai constaté ça aussi. Alors c'est sûr que quand on est podcasteur sur une affaire criminelle, on attire des gens qui sont effectivement fascinés. Moi, c'est pas forcément mon cas.
Je sens que c'est pas le cas.
c'est vrai, mais j'ai quand même un intérêt pour ces histoires. J'essaie aussi dans mon podcast de savoir pourquoi les gens sont fascinés, qu'est-ce qui nous fascine. Et j'avoue que j'ai toujours pas la réponse.
Vous pensez que c'est malsain ou c'est ludique? Moi, j'oscille entre les deux. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est malsain. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui s'amusent, qui mettent une distance dans cette passion avec les tueurs en série.
Oui, puis ça permet aussi d'évacuer, je pense, ces histoires terribles. Ça nous rassure.
Est-ce que vous avez cherché à retrouver Jean-Thierry Mathurin? Parce qu'il est vivant, il est quelque part, il vit sous son propre nom. J'ai raconté les quelques difficultés qu'il avait de réinsertion, bien entendu, dans la société. Vous avez cherché?
Alors j'ai demandé à son avocate, dès le début de mon podcast, Maître Arnold, qui m'a dit qu'il avait refusé.
Oui.
Parce qu'il ne voulait plus parler de cette affaire. Et je pense que son avocate veut aussi le préserver. Il a purgé sa peine. Bon, voilà, on peut le laisser tranquille aujourd'hui. En revanche, un jour, j'ai reçu un message sur un réseau social d'une personne qui me disait « Écoutez, voilà, je suis tombé sur votre podcast. Il se trouve que tous les dimanches, je fais mon jogging près d'une maison abandonnée. Et quelqu'un m'a dit que vivait là le tueur des vieilles dames. » Et ce monsieur m'a dit « C'est Thierry Paulin ». Et j'ai dit « Non, Thierry Paulin est mort, c'est forcément Jean-Thierry Mathurin ». Et donc, dans l'un de mes épisodes, je suis allé accompagner ce jogger dans son périple matinal dominical. Et voilà, je vous en dis pas plus, il faut écouter mon podcast. J'espère un
il
jour...
Il habitait la maison ou pas?
Il habitait la maison.
Il habitait la maison? Il donc vous la l'avez
maison.
Vu?
J'ai vu la maison.
Mais pas lui?
Je l'ai pas vu.
Bon.
J'espère qu'un jour il me contactera, j'aimerais l'interviewer.
J'aimerais oui, parce que c'est raconte... sans risque, puis ça n'est que la voix, donc il n'y a pas son visage.
Oui, et puis j'ai pas envie de l'interviewer j'ai pas envie qu'il me raconte les meurtres, mais j'aimerais qu'il me raconte lui son histoire, d'où il vient. Il l'a évidemment un peu fait à son procès, j'imagine, mais j'aimerais vraiment prendre le temps de l'écouter. Il n'a pas eu une vie facile, hein, tout comme Thierry Paulin d'ailleurs, ce qui n'excuse rien.
On va en dire un mot dans un instant. L'affaire elle-même, c'est-à-dire la partie enquête, vous m'avez dit que vous aviez accès au dossier pénal, que vous aviez une copie du dossier pénal, et c'est bien normal. Est-ce que les détails de l'enquête vous intéressent ou pas du tout? C'est-à-dire les empreintes digitales, le coup de poing incroyable du commissaire Jacob qui tombe sur lui complètement par hasard dans la rue, ça vous intéresse ou pas du tout?
Ça m'intéresse un peu, ça m'aide à comprendre ce qui s'est passé. Ça me donne quelques indications, mais c'est des détails que j'oublie vite, finalement. Je me rends compte que je les oublie, je les mets de côté parce que...
Vous connaissez toutes les affaires en détail, malgré tout. C'est-à-dire, si je vous dis, Madame Benahim, vous êtes capable de me dire l'adresse, ce qui s'est passé, dans quel ordre
Oui, 15 rue Marc Seguin, je sais qu'elle a été découverte par son fils, j'ai lu le rapport, je sais ce qui lui a été infligé, oui. Je sais à peu près tous ces détails-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les traces de cette affaire, et puis quelque part, toutes les émotions que cette affaire a véhiculées.
Alors, ce qui rend cette affaire très singulière, ce sont les motivations, j'ai envie de dire, apparentes des meurtres. Ce que nous dit l'enquête, qui n'a pas été terminée concernant Thierry Paulin, c'est que la seule motivation, c'était l'argent liquide qui allait leur permettre à tous les deux de se payer à manger, à boire, de payer leur drogue, d'aller en boîte de nuit, etc. Sauf que il n'y a pas eu de procès, et donc on manque quand même d'explications véritable. À titre personnel, je ne crois pas à la seule motivation pécuniaire. Parce qu'on a affaire à deux psychopathes. Et on n'est jamais psychopathe d'occasion. Un psychopathe, ça se construit à travers les années. Donc ce sont bien deux psychopathes qui effectivement ont tué pour l'argent, mais à la base ils étaient psychopathes.
Oui, alors moi je vous rejoins un petit peu. C'est vrai que c'est un gros mystère parce qu'on n'a pas vraiment... Il n'y a pas eu de procès Paulin, donc voilà, on ne sait pas vraiment quelles sont ses motivations. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. C'est quelles étaient leurs motivations. Par exemple, vous parlez dans votre récit d'une victime dans le 14e arrondissement qui s'appelait Estelle Donjou. Elle n'avait pas d'argent chez elle, il l'a tuée. Paulin l'a tuée pour une tranche de jambon.
Ouais.
Souvent, c'était dans des appartements très exigus que ces femmes habitaient. Elles n'avaient pas beaucoup d'argent. Et pourtant, alors que c'était facile dans un petit appartement de trouver quelques espèces, de l'argent, ils les ont vraiment massacrés.
Oui.
Donc on ne peut y voir que du sadisme, en fait.
Ouais.
Donc il y a forcément cette dimension-là.
Parce qu'il n'y avait pas nécessité, en plus, de les tuer, en tout cas pas systématiquement. Il aurait suffi de mettre une cagoule et personne n'aurait vu qu'il était noir avec une coupe à la Carl Lewis.
Oui. J'ai entendu dire, ou peut-être lu, je ne sais pas, il faudra que je vérifie tout ça, mais que Paulin disait qu'il aimait voir le regard de ses victimes quand elles comprenaient qu'elles allaient mourir.
Ouais, c'est un psychopathe.
Un psychopathe.
Un vrai tueur en série, pour le coup.
Oui, certainement. Je pense aussi.
Mais c'est marrant qu'on ait retenu que la motivation pécuniaire. Parce qu'évidemment, ça montre un immense fossé entre la gravité du geste et le caractère absolument dérisoire de ce qu'ils en tirent. Mais en fait, ils en tirent du plaisir. Probablement.
Probablement, ouais. Du plaisir. Et puis aussi, quand ils tuaient à deux, donc les crimes étaient beaucoup plus terrifiants, en fait, hein, beaucoup plus violents. parce qu'il y avait apparemment une espèce de zèle entre eux, entre les deux. Ils voulaient montrer à l'autre qu'ils étaient encore plus violents.
Est-ce que vous comptez un jour travailler sur d'autres crimes ? C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui cette matière, par l'expérience que vous avez, vous intéresse ? Par exemple, Guy Georges a sévi aussi à Paris. Le Grêlet a sévi aussi à Paris. Il y a là de la matière à continuer à tourner autour des crimes. Ou alors vous préférez passer complètement à autre chose ?
Non, ces affaires m'intéressent. Ça m'intéresse de travailler sur des affaires criminelles. Mais je me rends compte... donc moi, j'ai un point de départ, qui est le fait que je me rends compte que Mathurin a vécu dans mon immeuble.
Il faut aller s'installer là où habitait Guy Georges.
Mais j'ai pas de point d'arrivée. Et je me rends compte que plus ça va, plus je travaille sur cette affaire, plus le mystère s'épaissit. Et plus, quotidiennement, il y a des nouvelles pistes autour de cette affaire Thierry Paulin qui arrivent à moi, qui viennent à moi par des auditeurs, par divers canaux d'ailleurs.
Oui, ce sont des gens qui se manifestent pour vous parler, pour le coup.
Oui, des gens qui se manifestent pour me parler. J'ai eu des gens qui m'ont contacté pour me dire qu'ils ramenaient Thierry Paulin de boîte tous les dimanches dans leur Renault 5. Quelqu'un m'a contacté pour me dire que, en fait, Thierry Paulin était son babysitter quand il était petit. Donc c'est des gens qui me parlent de Paulin d'une façon assez intime, qui me décrivent le personnage avant les meurtres. Donc c'est toujours très intéressant pour moi. Et je me rends compte finalement que j'ai de la matière jusqu'à la fin de mes jours. Si je veux approfondir cette histoire, en prenant mon temps comme je le fais, je peux y passer toute ma vie et travailler dessus jusqu'à ma mort.
J'ai une dernière question pour vous. Le podcast rapporte rien.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité économique au podcast, et c'est pour ça que les émissions de radio qui ont des financements par ailleurs trustent toutes les premières places de podcast, et on notera compte, est numéro 3 en France. Comment est-ce que vous vivez ?
La grande surprise, ma grande surprise, c'est que ce sont mes auditeurs qui me financent via une plateforme qui s'appelle Patreon. Donc sur patreon.com/cerno, les gens peuvent s'abonner à mon podcast, ils ont des contreparties, ils chattent avec moi, ils ont des épisodes bonus, certains participent à l'enquête à mes côtés, et ça me permet de me financer, d'avoir un petit salaire qui est correct, qui grossit chaque jour. Et voilà, c'est très rassurant pour moi, parce que j'aurais dû arrêter très vite.
C'est pas viable.
Mais avec ce système, c'est viable. J'en vis depuis 3 ans maintenant, et j'espère que ça va continuer.
Patreon.com/Cerno. Et pour écouter donc les 100 épisodes incroyables consacrés à cette affaire, vous allez sur toutes les plateformes de podcast et vous tapez Cerno l'anti-enquête. Merci beaucoup.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.